Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abras le corps.
Témoignage de Luna. Aujourd'hui, le dimanche 17 mai, nous célébrons la journée de lutte contre la LGBTQIA+ phobie. Une journée de plus où vous allez nous répéter qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous ne vous demandons qu'une unique et simple chose, laissez-nous vivre. Comme on l'entend, comme on le sent. Depuis mon enfance, on me répète des tas de choses. On essaie de me convaincre que mes attirances ne sont pas les bonnes, que je dois avoir un problème. Pourtant, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis entourée de personnes qui me comprennent, qui prennent le temps d'écouter et d'échanger, plutôt que de me lancer des phrases blessantes. Ce n'est qu'une passade, tu verras. Tu reviendras vers les hommes cis. Eh bien non. Si je ne le souhaite pas, je ne vois pas pourquoi je me forcerais à faire plaisir à des inconnus sans me préoccuper de mon propre bonheur. Je suis lesbienne et heureuse. Fière de mes choix et de mon parcours. Chaque parcours est unique. Aucun argument ne peut contrer mes choix de vie. Ce n'est pas une maladie, c'est un choix. Un choix dont je suis si fière. Aujourd'hui, si je vous écris, c'est parce que je sais à quel point mon parcours a été périlleux et blessant, car peu accepté par la société, rejeté par ma famille. On ne devrait pas avoir à faire le choix entre sa famille et ses attirances. Ce n'est pas maladif, donc c'est bien heureusement incurable. Nous tourner le dos ne changera rien. Quant à ceux qui sont persuadés que des parents de même genre ne peuvent pas assurer l'équilibre pour un enfant, regardez dans les foyers, et vous verrez que les couples hétérosexuels ont tout autant de problèmes. Il n'y a pas de solution magique pour devenir des parents parfaits. Je souhaite être épanouie, et pour cela, je ne me mettrai pas de barrière. Je ne me cacherai pas. Je resterai debout face à vous, fière de qui je suis devenue et de où je souhaite aller.
Bonjour tout le monde, nous voici donc de retour dans l'épisode 2 de cette série de podcasts dédiée à la journée de lutte contre la queerphobie. Dans l'épisode précédent, j'ai essayé d'abord de déconstruire la binarité pour montrer qu'elle était vraiment à la base de l'hétéronormativité, du patriarcat et qu'elle structurait donc l'ensemble des discriminations et de la queerphobie. Dans cet épisode, je vais maintenant m'intéresser à l'évolution des discours sur les personnes queer en montrant comment ces discours sont en constante tension entre une stigmatisation, une exclusion, des tentatives de pathologisation ou des moqueries, mais toujours dans un mouvement dynamique, les personnes concernées participant toujours activement à ces énonciations en créant leurs propres pratiques, leurs propres vocabulaires, en se jouant des carcans institutionnels dans lesquels on essaye de les maintenir, en se réappropriant le stigmate. Les processus de subjectivation des personnes queer sont donc toujours dans cette dynamique, dans ce dialogue. Ils ne sont ni inventés de toutes pièces par lesdites minorités, ni le simple produit d'un pouvoir ascendant, stigmatisant, qui s'imposerait à eux. Les identités queer, comme toute identité en général, sont avant tout mouvantes, prises dans le social avec lequel elles négocient constamment. Elles-mêmes participent d'ailleurs à redéfinir les ordres sociaux, à faire changer les points de vue. Récemment, il y a eu plusieurs travaux qui ont été publiés sur l'insulte, notamment l'insulte gayphobe, je pense notamment chercheurs comme Didier Ribon ou Sébastien Chauvin. Ils ont montré que l'insulte joue un rôle essentiel dans la reproduction de l'hétéronormativité et structure dès l'enfance la construction des masculinités. Qu'on ait été ou non ciblé par ces insultes, celles-ci sont intériorisées, elles désignent celui qu'on ne doit pas être, incitant à surjouer les codes de la masculinité cisgenre hétéro-viril, ou bien à opter pour des stratégies d'évitement, de dissimulation, lorsqu'on ne peut se retrouver dans ces codes. De là tout le potentiel de réappropriation de l'insulte, pour sortir la caractéristique de son volet négatif et en faire quelque chose de revendiqué. En se nommant soi-même, folle, pédée, gouine, etc., on désamorce cette insulte de sa finalité infériorisante.
L'étymologie n'est pas la destinée. La pornographie, disait-elle, c'est écrire sur des putains. C'est, disait-elle, se saisir du mot putain, repousser la haine, le mépris, le dégoût, toute la puanteur crue du sexe. Sa langue enflait dans sa bouche et je sentais la chaleur qui émanait d'elle. Des putains, disait-elle, des putains qui écrivent. Tu es une putain, murmure mon amante. Tu es une petite putain affamée. Et l'odeur émane d'elle, épaisse, puissante et suave. Tous les mots que je peux prononcer sont alors prononcés, s'écrivent d'eux-mêmes en travers de notre lit. L'acte, l'image, les mots. Des putains, écrivant notre passion. Du porno sur notre peau, nos visages, nos bouches ouvertes. Des putains, ne croyant pas une seconde au mot « putain ». Dorothy Allison, féministe et lesbienne femme issue d'une famille white trash. L'expression renvoyant au sous-prolétariat blanc aux États-Unis.
Alors je vais maintenant essayer de faire un historique un peu de l'évolution des discours sur l'homosexualité et la transidentité. Et je m'appuie notamment pour cela sur l'ouvrage « Histoire des corps » de Courbin, Courtline et Vigarello. Il convient d'abord de rappeler que tout au long des derniers siècles, il y a toujours eu une représentation différenciée entre l'homosexualité féminine et masculine. Le lesbianisme est souvent considéré comme une fausse homosexualité. Il a longtemps été interprété comme soit avant tout une provocation, une revendication d'autonomie par rapport aux hommes, et ne constituant pas ainsi véritablement de danger parce que on ne concevait pas que des femmes puissent de toute façon avoir un plaisir et des pratiques sexuelles en dehors des pratiques hétéronormées. Et elle n'était pas non plus vue comme un danger, puisqu'on concevait les relations sexuelles entre femmes comme non pénétrantes, et donc ne risquant pas de remettre en cause leur virginité, et donc de les exclure du marché marital. Néanmoins, elles ont pu aussi être souvent pathologisées, beaucoup de lesbiennes ayant notamment souffert d'internements psychiatriques, notamment à la fin du 19e siècle. On peut penser à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et aux travaux notamment de Charcot, par exemple. Elles étaient alors qualifiées d'hystériques.
Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie.
Et en même temps, à la fin du 19e siècle, il y a aussi cet imaginaire de la lesbienne qui fascine, avec l'émergence de représentations de plus en plus fantasmées des lesbiennes.
Et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Mais toujours tourné pour le plaisir des hommes, en cis et hétéro, bien sûr, et qu'on retrouve dans la littérature, le cinéma, et même présent toujours dans la pornographie, mainstream en tout cas.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
La vie est flamme, mon amour.
L'homosexualité masculine, quant à elle, a été bien plus souvent vécue et représentée comme un véritable danger pour le culte viriliste, une menace pour le régime hétéronormatif, vu comme une véritable déviance sexuelle, notamment avec tout le courant pudibond du 19e siècle.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sœur.
Elle a été donc longtemps pénalisée, puis pathologisée. Et elle a été également l'objet d'internements psychiatriques et de méthodes extrêmement violentes, de torture, d'électrochocs, etc.
De mon âme à ton âme. De mon âme à ton âme. De mon âme à ton âme. De mon âme à ton âme.
Le ciel est noir, mon ami,
Le terme d'homosexualité, il a été utilisé pour la première fois par un journaliste austro-hongrois qui s'appelle Ben Kert, qui l'utilise en 1860 pour condamner les lois dites antisodomites de l'Empire prussien. Au-delà de la condamnation du vice, elle va devenir l'objet de l'analyse psychologique et donc émerge à partir de cette fin du 19e siècle le personnage de l'inverti. L'homosexuel ne cesse pour autant pas de rester un danger social, il est souvent associé à l'assassin, au voleur, mais on le conçoit de plus en plus comme un malade, comme quelque chose de pathogène, qui serait d'ailleurs contagieux et qui viendrait des pays étrangers. En 1895, le procès d'Oscar Wilde va avoir un impact très fort en Europe. Donc Oscar Wilde est condamné à 2 ans de travaux forcés et ça va commencer à susciter tout un tas de réflexions sur l'homosexualité, notamment dans les milieux intellectuels et littéraires. Et on peut situer là, à la suite de Didier Rubon, l'avènement d'une première identité gay moderne en résistance, mais qui reste circonscrite à un milieu très élitiste littéraire européen.
Me retournant à demi, je vis pour la première fois Dorian Gray. Quand nos regards se croisèrent, je me sentis pâlir. Une étrange sensation de terreur s'empara de moi. Je sus que je me trouvais face à quelqu'un dont la personnalité était en elle-même si fascinante que si je laissais les choses aller leur cours, elle absorberait tout mon être.
Maintenant, Mr. Wilde, je vous demande ceci. Considérez-vous que des sentiments d'un homme envers un jeune garçon, à peine arrivés à l'âge adulte ainsi décrits, sont convenables? Les pauvres gens qui n'ont pas votre hauteur d'esprit pourraient-ils l'assimiler à quelque chose de mal et de sodomitique?
Dès le début du XXe, il y a tout un processus de médicalisation de la sexualité et des identités sexuelles qui va s'ouvrir avec la première séparation de la représentation du travesti de la représentation de l'homosexuel. Et donc c'est à partir de ce moment-là où on commence vraiment à s'intéresser à la transidentité en tant que telle, avec l'émergence de tout un tas de thèses et d'écoles différentes qui essayent de comprendre le mal-être des personnes trans, mais surtout d'où est-ce qu'il vient, avec donc le courant des endocrinologues. À côté de ça, il y a toute l'école des sexologues aux États-Unis qui va s'opposer pendant des dizaines d'années au mouvement des psychiatres. Donc les courants des sexologues, eux, ils revendiquent vraiment de pouvoir tester de nouveaux traitements hormonaux, chirurgicaux, d'opérer les personnes, leurs patients à leur demande, alors que pour les psychiatres, ce serait, je cite, une collaboration avec la psychose, il n'en est pas question, etc. Donc ces deux écoles vont s'affronter tout au long des années, notamment 50-70, jusqu'à la victoire finalement des sexologues, qui vont ouvrir tout un tas de cliniques dans lesquelles ils vont effectuer les premières transitions hormonales et chirurgicales des personnes trans. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, c'est beaucoup plus lent, il y a beaucoup moins d'opérations, il y a des progrès dans les années 30 côté traitement hormonaux, il y a quelques opérations qui se font, mais en fait il y a vraiment une prédominance, notamment en France, de la psychanalyse et qui va s'opposer à ces transitions et à ces opérations. En fait, jusqu'aux années 70, en France, les opérations, elles vont être très rares, simplement menées dans des cas extrêmes, notamment lorsqu'il y a des risques jugés trop importants de suicide de la part des personnes trans. Par contre, il y a toujours les opérations sur les personnes intersexes et certaines personnes trans, comme coccinelles notamment, qui vont jouer là-dessus pour pouvoir se faire opérer en se jouant en fait du carcan institutionnel médical.
De son vrai nom, Jacqueline Charlotte Dufresnoy, coccinelle, est la première femme transgenre française. Née en 1931 comme James Dean et décédée en 2006 comme Madonna. Elle arrive à Paris, elle y travaille comme meneuse de revue chez Madame Arthur, puis au Carousel, deux célèbres cabarets parisiens. Coccinelle est à Casablanca pour son opération. ou plutôt sa rectification, comme elle aimait à le préciser. Changement officiel à l'état civil français. Coccinelle passe donc à la mairie pour se marier, puis elle passe à l'église. Quite a scandal. Pendant près de 10 ans après, les demandes de changement d'état civil sont bloquées. Coccinelle fera le tour du monde, sera adulée, et nous nous souviendrons toujours d'elle.
Si un être est malheureux, on se fait bien rectifier le nez pour qu'on ne ferait pas le reste.
Dans les deux cas, en tout cas, des deux côtés de l'Atlantique, que ça soit côté école des sexologues aux États-Unis ou côté psychanalyse en Europe, il y a à chaque fois un processus de médicalisation qui s'accompagne forcément d'une pathologisation de la transidentité, et les psychiatres, les médecins restent les gardiens de la binarité et de l'hétéronormativité en incitant, en encadrant les transitions afin qu'elles répondent bien au code d'un genre ou l'autre. Côté psychanalyse, la pensée de Freud, elle va vraiment ancrer une certaine vision du genre, du sexe et de la transidentité qui perdure encore aujourd'hui et qui reste donc pathologisante. C'est un nouveau régime de vérité, une nouvelle grille d'analyse qui part du subconscient. La base de la pensée psychanalytique, c'est qu'on serait tous bisexuels, mais que le passage à la maturité sexuelle qui se fait au fur et à mesure de l'enfance et de l'adolescence, qu'on nous devrait normalement nous conduire à l'hétérosexualité. La bisexualité ou l'homosexualité sont donc vues par Freud comme des déviances sexuelles par rapport à la norme psychique de l'Oedipe, c'est-à-dire le fameux renoncement à l'amour du père réel ou symbolique. Ces déviances, elles s'expliquent par des événements, des relations particulières qui se déroulent au sein du noyau familial, et notamment une déception à l'égard du père ou un surattachement à la mère, qui trouble donc l'identification de l'individu à son propre sexe et donc à sa propre sexualité, puisque les deux sont vus comme intimement liés, que Freud ne dissocie toujours pas la sexualité de l'identité sexuelle. Alors même si elle contribue à en partie dénaturaliser l'orientation sexuelle, la psychanalyse de Freud, elle entretient toujours le mythe de la binarité, et donc elle nie la diversité des orientations et des expressions de genre possibles, leur capacité à évoluer au fil de la vie, et puis elle reste centrée sur le noyau familial, sans prendre en compte le reste de la socialisation par les autres sphères de la société, qui est d'ailleurs le principal reproche que lui adresse Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe.
Elle se rappelle l'horreur dans la voix de sa sœur. Elle est une de las otras. Les regards sur le visage de sa mère alors qu'elle dit « J'ai tellement honte, je ne pourrai plus jamais relever la tête dans ce pueblo. Me doy un tiro en la cabeza. Je vais me tirer un coup de fusil dans la tête si tu dis aux gens de cette ville que tu es une idiote. » Les mots de la mère sont des pointes qui s'enfoncent dans sa chair. De las otras, intouchable. Mais je suis moi, dit-elle. J'ai toujours été moi. N'a même pas tes amis des viands dans ma maison, mon pays, la planète, fiche les camps. Ne nous contamine pas. Vete a la chingada de aquí. Les camps, elle a fui tous les camps. Mais dans chaque endroit où elle est allée, elle l'a repoussée de l'autre côté. Et cet autre côté l'a repoussée vers son autre côté. Toujours de l'autre côté des rails, maintenus dans l'ombre des autres. Pas le droit de chanter, d'être en colère, d'exploser. Tu devrais avoir honte de toi. Des gens meurent de faim en Éthiopie, meurent au Guatemala et au Nicaragua, pendant que tu parles des droits des homosexuels et d'orgasme. Repoussée au bout du monde, elle y a trouvé refuge à la lisière, des villes, des quartiers, des rues, des maisons. Repoussée toujours vers l'autre côté, étrangère dans tous les pays, nulle part citoyenne. Les camps, elle a fui tous les camps, mais chaque endroit où elle est allée, l'a repoussée de l'autre côté, à l'autre lado. De l'autre lado, de Gloria Anzaldúa.
Et en outre, même si Freud considère que l'homosexualité ou la bisexualité n'ont pas nécessairement à être vues comme des pathologies s'ils n'en découlent pas des mal-êtres, de même qu'ils n'estiment pas qu'elles sont des perversions sociales, ou des perversions morales, tout un mouvement de psychanalyse qui va se revendiquer de Freud va réactualiser le discours hyper pathologisant et moralisateur qui avait lieu jusque-là. Et c'est notamment le cas de la Société internationale de la psychanalyse qui va chercher à réprimer l'homosexualité sous prétexte de la guérir. Bon, après, il y a tout le mouvement des lacaniens qui vont dire que non, Lacan, lui, contribue à dépathologiser l'homosexualité en accordant plus d'intérêt, plus de place au désir, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et la pensée lacanienne non plus ne se départit pas de sa vision binaire et centrée sur la famille. Donc finalement, ça n'a pas vraiment fait évoluer la conception de l'homosexualité dans les sociétés.
D'énergie qui vient de las entrañas, de las entrañas. Esencia, d'énergie qui vient de las entrañas, de las entrañas. Una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán? Una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán? Sal, 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 sal de las entrañas. Sal, 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 sal. Aquí no haces nada. Sal, 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 sal de las
Pour ce qui est des personnes trans, l'ordre des médecins ne va autoriser les traitements hormonaux et chirurgicaux en France qu'à partir de 1983 et sous des conditions extrêmement strictes, c'est-à-dire imposant 2 ans de parcours, le passage obligatoire au sein de l'hôpital public. Donc face à la rigidité du corps médical et des institutions juridiques et administratives, la communauté trans française va être obligée de s'organiser. La plupart vont aller faire leur transition à l'étranger, ce qui demande l'engagement d'une charge financière énorme. Elles vont surtout s'organiser entre elles pour se procurer des hormones, s'échanger des listes de généralistes. Internet va faciliter cette éclosion d'une communauté trans par l'apparition de nombreux forums, de groupes de soutien et surtout le développement d'une contre-expertise médico-légale qui vient recomplexifier l'interprétation des genres, refuser le binarisme, parfois même créer carrément des performances culturelles aussi à côté de la stricte entreprise médicale de transition, par le détournement d'imagerie médicale, pornographique, etc. Et en 1992, enfin, est autorisé le changement d'état civil, mais sous condition de totale médicalisation et juridicisation, donc c'est-à-dire qu'il y ait un traitement hormonal, une opération, et même l'adoption du comportement social du genre en question, qui implique tout un tas de tests, de modes de vie, de passing, etc. Donc quelque chose de vraiment binaire, réducteur, paternaliste et oppressif. À l'inverse, aux États-Unis, les mouvements trans rencontrent un contexte totalement différent de libéralisation des transitions, puisqu'on arrive donc aux années 80, non seulement à un glissement de l'approche psychiatrique qui va moins chercher les causes des mal-être et plus se baser sur le traitement des symptômes, et en même temps, on entre dans les politiques néolibérales, donc ça va entraîner une fermeture de la plupart des cliniques qui pratiquaient les transitions jusque-là et qui étaient tenues par les sexologues. Et finalement, l'encadrement des transitions va être laissé à la décision de chaque État et surtout de chaque médecin finalement, et de plus en plus d'autres types de structures telles que des cliniques de chirurgie esthétique par exemple vont prendre en charge les transitions des trans. La transidentité est toujours pathologisée, mais on se place de plus en plus à l'écoute du mal-être du patient. Lorsque Norman Fiske parle de dysphorie de genre en 1974, il se réfère vraiment au fait de ne pas supporter l'identité de genre qui est assignée à la naissance. Et c'est sur cette base que la catégorie de transsexualisme, qui est celle qui est utilisée à l'époque, qui n'est plus valable aujourd'hui, entre dans le DSM-4, le DSM étant le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, qui est publié par l'American Psychiatric Association, donc l'association psychiatrie américaine. Et au même moment, se libéralise sur les marchés pharmaceutiques les différents traitements hormonaux, pour le plus grand bonheur des capitalistes, bien sûr. Mais au moins, ce changement a-t-il le mérite de permettre aux personnes trans de faire davantage entendre leurs besoins en termes de changement corporel, etc., et d'avoir une offre chirurgicale, hormonale, bien plus spécifique, appropriée au cas par cas. Alors pour tout ce petit récap historique, je me suis appuyée notamment sur un article du sociologue Éric Massé, qui est chercheur au centre Émile Durkheim, et qui enseigne la science politique, la sociologie comparative à la faculté de sociologie de l'université de Bordeaux. Finalement, donc aux États-Unis aussi, se développent d'autres types de revendications, d'identités trans, de communautés, etc. En 1994, le terme de transsexualisme disparaît officiellement du DSM-4 et on lui préfère le terme de Gender Identity Disorder, donc trouble de l'identité de genre. Et se met en place tout le développement d'un mouvement politique et culturel trans qui vraiment insiste sur la diversité des expériences trans, sur le poids des normes sociales et qui remet en question là aussi la binarité. Ce mouvement, il prend aussi de plus en plus d'ampleur en Europe, notamment dans les années 2000, et où il va enfin peu à peu trouver un écho dans le milieu médical, où on va remettre en cause les tests de vie réelle, où va être de plus en plus accepté l'idée de que les personnes trans puissent choisir le professionnel de santé qu'elles souhaitent les voir accompagner dans leur transition. Bref, peu à peu, l'idée de bien-être, d'épanouissement personnel du patient va prendre le pas sur l'idée de normalisation. Et la contre-expertise trans va de plus en plus frayer un chemin aussi dans les chaires universitaires, même si c'est pas encore gagné.
En me voyant, je sais ce que vous vous dites, que je ne suis pas vraiment ce dont j'ai l'air. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. Cherchez, cherchez la femme. Voyez, je ne cache rien, cherchez bien. En moi, tout le proclame. Que le mot féminin vraiment me convient. Je n'ai qu'un seul programme. Ce soir, c'est de tout faire pour vous plaire. Cherchez, cherchez la femme. Vous verrez que je n'ai pas clair d'en avoir l'air.
En France, depuis la dernière loi de 2016, les personnes trans peuvent changer leur état civil sans avoir besoin de prouver une transformation physique irréversible et médicale qui incluait donc une stérilisation. Donc c'est un progrès, mais il y a encore du chemin à faire puisque en fait ce que dit la loi, c'est que toute personne majeure ou mineure émancipée peut démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, et peut en obtenir la modification. Sauf que du coup, la réunion des faits suffisants reste à l'appréciation du magistrat, donc ce qui est problématique, sans compter que tout le processus de juridicalisation, de façon générale, est très humiliant, très discriminant. Et puis qui demande un certain nombre de ressources et financières et culturelles pour aller se frotter à l'appareil judiciaire, sans compter qu'il y a encore un certain nombre de tribunaux administratifs qui jouent sur les mots pour refuser le changement d'état civil. Du coup, ce que revendiquent les mouvements militants trans aujourd'hui, c'est un simple accès libre et gratuit au changement d'état civil.
Voire plus de mention du sexe dans l'état civil du tout. bossed up, look at me, I'm flossed up. Can't stop now, I'm bossed up. I'm bossed up, look at me, I'm flossed up. Can't stop now, I'm bossed up. Bossed up, look at me, I'm flossed up. Can't stop now, I'm bossed up. I'm bossed up, look at me, I'm flossed up. Can't stop now, I'm bossed up. I'm bossed up, look at me, I'm flossed up. Can't stop now, I'm bossed up. Bossed up, look at me, I'm flossed up. Can't stop now, I'm bossed up. Bossed up, feeling like Hugo. Got too many wild cards, call a bitch Uno. Fuck with plenty niggas and it ain't the ones that you know. I'm a pretty bitch and I'm shining like I'm Pluto. Fuck you gonna do though, you ain't doing shit. But on your knees every night sucking dick. Go and fix your life, baby, go and get a job. Instead of looking like a mess, living life like a slob.
Ça, c'était pour un petit récapitulatif de la structuration des identités et revendications trans du côté des personnes homosexuelles. Donc, on avait vu l'émergence d'une première culture queer, en tout cas gay, à la suite du procès d'Oscar Wilde qui se perpétue jusque dans les années 20 et 30, notamment au travers du groupe de Bloomsbury, mais qui reste donc très intellectuel et très élitiste. Après la Première Guerre mondiale, l'homosexualité est déclarée comme maladie psychiatrique par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui va être donc désastreux puisque va légitimer la perpétuation de tout un tas de tortures en clinique, de lobotomie, d'électrochoc, etc. Mais peu à peu, dans la seconde moitié du XXe siècle, semble s'opérer une certaine mutation des mentalités. L'enquête sociologique de Kinsey en 1946 sur les tabous relatifs à la sexualité au sein de la société américaine révèle ainsi que 10% de la population adulte fait part de ces pratiques exclusivement homosexuelles. Mais c'est surtout bien sûr dans le cadre du mouvement pour les droits civiques d'abord aux États-Unis dans les années 60 que va se libérer la parole sur les sexualités et les autres identités de genre. Donc en lien avec les mouvements féministes radicaux, matérialistes, du féminisme noir, du anti-féminisme, des mouvements anti en général, etc. Le mouvement LGBTQIA+, va peu à peu se structurer, notamment suite aux émeutes de Stonewall du 28 juin 1969 à New York, qui oppose un certain nombre de militants à la police et qui va devenir vraiment structurant pour la communauté LGBT, et puisque c'est toujours l'anniversaire de la marche des fiertés célébrée encore aujourd'hui chaque année.
Nous sommes le 28 juin 1969. C'est une année électorale et le maire, qui veut rester en poste, cherche à rendre bien visible sa fermeté. Des policiers pénètrent dans le bar, contrôlent les papiers de certains clients et dispersent les autres. Mais cette fois, la situation dégénère. Les gens refusent de partir. Une foule se rassemble devant le bar. Les policiers qui reçoivent des projectiles sont bloqués à l'intérieur et doivent appeler des renforts. Treize personnes sont arrêtées, on compte plusieurs blessés des deux côtés et les affrontements se poursuivront les trois nuits suivantes.
Côté France, en 1971, est fondé le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR, sans pendant lesbien, les Gouines Rouges, créé entre autres par l'activiste Monique Wittig, et pour rendre hommage à cette dernière, voici un extrait de son œuvre Les Guerrières. L'une d'entre elles raconte l'histoire de Vlasta. Elle dit comment, sous l'impulsion de Vlasta, s'est créé le premier état des femmes. Par vingtaines de milliers, les jeunes femmes de Bohême ont rejoint, en Moldavie, Vlasta et ses troupes. Les forteresses carpathiennes sont vues sur le haut des monts, avec leurs murs de grès rose. Dans leur cours, après les exercices d'armes, assemblées, elles composent des chants et inventent des jeux. Une autre d'entre elles rappelle que dans l'état des femmes, les hommes n'ont été tolérés que pour les besognes serviles et qu'il leur a été interdit sous peine de mort de porter les armes ou de monter à cheval. Aux ambassadeurs de Bohême, venus en grande colère leur enjoindre de se soumettre, elles font la nique et les pieds de nez et les renvoient, émasculées. Plus tard, elles mettent en déroute des troupes nombreuses et entrent dans une longue guerre au cours de laquelle les guerrières de Vlasta ont appris à toutes les paysannes qui se sont jointes à elles le maniement des armes. Monique Wittig, Les Guerrières. En 1975, aux États-Unis, apparaît le terme de genre qui vient s'opposer aux théories psychanalytiques pour désigner les sexualités et les identités sexuelles comme des constructions sociales, idéologiques, sans réalité anatomique. De façon générale, la multiplication des revendications d'identités différentes va permettre la structuration, l'organisation d'une certaine culture LGBT et d'un nouveau vocabulaire. En 1977, s'ouvre notamment une maison de production pornographique qui fonctionne sur le système de l'autoproduction et de l'autodiffusion et qui est rattachée au sex shop Good Vibration de San Francisco. Il va devenir le foyer clé de la culture queer de la ville en étant un véritable bassin d'emploi pour les personnes queer de San Francisco, un lieu d'échange, de réflexion, d'exploration, de pratiques en tout genre. Et cette maison de production va vraiment accompagner l'ensemble des mouvements subculturels, sexuels et des transformations corporelles qui vont suivre, que ce soit l'usage du god, les travestissements, l'apparition de différentes cultures sadomaso ou trans, qui sont des mouvements qu'a notamment étudié Sam Bourcier. La subculture urbaine est notamment très forte à New York et à San Francisco. À New York, il convient également de souligner l'importance du voguing et des ballrooms à Harlem, notamment pour la communauté queer afro-descendante.
Focus, children. It is time we remind the world who we are. Jackpot.
Mother, what do we take?
Everything.
The category is... Royalty.
Someone as talented as you wind up dancing for a whole bunch of junkies.
I want to be a star.
You ever consider joining a house?
What do you mean?
Well, a house is a family you get to choose.
I have bigger dreams of performing at some ball.
I have nowhere else to go.
Come in.
Et l'ensemble de ces mouvements vont ainsi s'opposer aux stigmatisations sociales, aux violences policières et homophobes en général. Néanmoins, il ne faut pas avoir une vision non plus trop utopiste et homogénéisante de ces mouvements. Il y avait beaucoup de dissensions entre eux, et notamment un certain rejet d'une partie de la communauté homosexuelle, de la communauté trans, ce contre quoi s'est notamment battue la militante trans Sylvia Rivera. Dans ces mouvements, la psychiatrie a été très vite désignée comme l'un des ennemis principaux, comme le rouage clé de l'oppression homophobe, et ce mouvement s'est beaucoup appuyé sur les travaux de l'enquête de Kinsey de 1946 que j'ai mentionné précédemment pour désigner l'homosexualité comme une variance sexuelle et non pas comme une déviance. C'est suite à tout ce mouvement de rejet de la psychiatrie que l'American Psychiatric Association va finalement céder en 1974 et rayer l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Et en 1987, le terme de perversion disparaît lui aussi et est condamné, et donc l'homosexualité va vraiment sortir du champ du traitement psychiatrique.
J'étais jamais la lumière. Je veux voir de près ton visage.
J'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait d'être lesbienne. Quand j'étais petite, que j'entrais dans la puberté, j'ai commencé par regarder le corps des autres filles. Je pensais que je me comparais à elles, et ben, c'était sans doute vrai, parce que j'étais très mal à l'aise avec qui j'étais et avec mon corps à ce moment-là. Mais je sentais que c'était pas tout à fait seulement ça qui se passait. Je pensais pas en termes de désir ni d'amour, mais à ce moment-là, je sentais juste confusément qu'il y avait quelque chose de différent chez moi, que je regardais pas les garçons de la même manière que mes amis. Et je crois que je sentais déjà le côté hyper performatif de l'attraction hétérosexuelle au collège. C'est-à-dire le fait qu'on pouvait être fille, et peut-être plus important, on pouvait être féminine que si on aimait et qu'on disait aimer les garçons. Et moi, je me reconnaissais pas du tout dans ça. Mais en tout cas, vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé donc à comprendre que j'étais attirée par les filles, et j'étais absolument terrifiée par cette idée. À l'époque, j'avais un journal intime dans lequel j'écrivais absolument jamais, sauf une fois tous les 36, pour pour faire genre que j'étais J.K. Rowling et que j'étais quelqu'un de profond, mais alors pas du tout. Mais à partir de cette période-là, en fait, presque tous les soirs, j'écrivais dans mon petit journal intime que je voulais pas être homo. Et c'était presque comme une prière, quoi. Et voilà, bah, ça, c'était un échec. Et voilà, finalement, j'ai mis des années à accepter qui j'étais, ce que j'étais. Et ça n'a pas du tout été facile. Enfin, j'ai fait une dépression, blablabla. Enfin, des trucs pas vraiment cool. Et en fait, ce qui m'a vachement aidée, c'est d'entendre parler du concept d'hétérosexualité compulsive d'Adrienne Rich. Et en gros, l'idée de l'hétérosexualité compulsive, c'est que les femmes qui aiment les femmes refoulent leurs désirs et leurs sentiments à l'encontre des personnes du même sexe parce que leur identité, non seulement sexuelle, mais de genre, est intimement liée au fait d'aimer et de désirer être aimée par les hommes. Donc en gros, bah c'est toujours la même idée que les femmes n'existent que par rapport aux hommes et que par leur regard, leur... bah voilà, par leur regard. Et en fait, à partir du moment où j'ai lu ça, où j'ai compris qu'en fait, moi, je me forçais à être attirée par les hommes, parce que toute ma vie, depuis que j'étais petite, comme des millions de femmes dans le monde, on m'avait toujours dit que, ben voilà, que je devais trouver un mari, que je devais plaire aux garçons, que si j'avais un ami garçon qui m'embêtait, ben c'était parce que je devais lui plaire, etc., etc. Et donc, en fait, tout ça, c'est des mécanismes que j'avais enregistrés et qui faisaient que ben, j'arrivais pas à penser ma vie autrement que par, par le prisme de l'hétérosexualité, en fait. Et voilà. Finalement, ben, j'ai fini par sortir de ça, mais ça a été un processus très très long qui est toujours pas tout à fait terminé, parce que même si maintenant je suis j'ai fait mon coming out, etc., il y a encore des moments complètement surprenants, où il y a un moment où je sais pas, je suis avec un ami et tout d'un coup il est gentil avec moi, il ouvre la portière de sa voiture et je me dis « Ah mais peut-être qu'en fait il te plaît ce garçon ». Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça, il te plaît pas du tout. C'est vraiment un réflexe, je sais pas, inconscient. Et c'est très très difficile de s'en débarrasser. Donc, ben, malgré ça, moi j'ai quand même été très très chanceuse. J'ai jamais vécu d'homophobie véritablement violente ou cruelle de la part d'autres personnes, que ce soit de manière physique ou psychologique ou de quelque autre manière que ce soit. Mais la personne qui a été la plus cruelle à cause de mon homosexualité, ça a été moi, envers moi-même.
Enfin, qu'en est-il aujourd'hui ? La suite dans le prochain et dernier épisode.
Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, ay papi. Baby, I don't need you, I just wanna freak you. Heard you a freak too. What's two plus two?
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.